3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
En 1958, le domaine de la science-fiction allait être frappé par un film culte intitulé « La mouche ». En 1965, on terminait cette trilogie avec un film qui s'intitulait « Curse of the Fly », un film qui fut très mal accepté par le public. 21 ans plus tard, David Cronenberg allait ramener le mythe de la mouche dans un remake époustouflant qui est encore aujourd'hui non seulement extrêmement marquant, qui bouleversa toute une génération au milieu des années 80. Dans notre programme double d'aujourd'hui, nous allons toucher à ce remake de cette saga incroyable de la mouche à travers, bien sûr, la nouvelle duologie, soit le film The Fly de 1986 réalisé par nul autre que le réalisateur canadien David Cronenberg, mais également sa suite The Fly 2 qui sera réalisée par le concepteur des effets spéciaux Chris Wallace 3 ans plus tard. Donc, programmez vos ordinateurs et préparez-vous à être téléporté dans un monde horrifiant qui va tout simplement prendre le sujet d'une trilogie très fantaisiste et l'amener dans la terreur moderne du fin du 20e siècle.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
You enjoyed the movies. Like to know what the stars do on and off the set. It's good to know what's new. Then read all about it in the ABC Film Review. Collect those colored pin-ups of the guys and gals who send you Hollywood gossip. Gets here right on cue. So read all about it in the ABC Film Review. The latest that they write about. Collectors corner they sat about. So many things to find out about. It's over to you in Film Review. Read all about the big time, what the big time stars all do. Every month just buy that ABC Film Review. Every month just buy Film Review.
And now, on with the show.
Vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler.
Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée.
Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde.
Eux disent que si.
Oui, mais ils mentent.
Il y a une limite à tout, même à l'imagination.
La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices.
Là où les créations les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes.
Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé.
Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite.
Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré.
Je suis persuadé que Marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société.
Non.
Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça?
Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer.
Oh non, qu'est-ce qui m'arrive?
Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe.
Ce mal qui est en toi, que veut-il?
Il veut me transformer en quelque chose d'autre.
Oh non.
Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté.
Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux.
Oh, j'ai peur.
N'aie pas peur.
Non, ayez peur. Ayez très peur.
Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi.
En première partie de notre programme d'aujourd'hui, The Fly, la mouche, ce drame de science-fiction distribué par la 20th Century Fox le 15 août 1986. Ce film d'origine américaine, canadienne et britannique d'une durée de 96 minutes a obtenu un budget de plus de 15 millions de dollars et a amassé plus de 60,6 millions de dollars au box-office international. Sur le siège de la réalisation, on retrouve David Cronenberg qui nous avait donné des films comme Scanners, Videodrome et Dead Ringers. Au niveau de la production, Stuart Kornfeld, ce producteur américain qui nous a donné Zoolander 1 et 2, Duplex et Kafka. Et à ses côtés, un homme qui n'est pas crédité au générique et dont je vais vous expliquer les raisons plus tard. Donc, le producteur Mel Brooks qui nous avait donné au niveau de la production To Be or Not to Be et l'excellent The Elephant Man du réalisateur David Lynch. Au niveau de la scénarisation, eh bien, on a Charles Edward Pogue Jr. qui nous a donné bien sûr les scénarios de Psycho 3 et Dragonheart et bien sûr David Cronenberg qui lui a réécrit pratiquement intégralement le scénario à part quelques exceptions qui lui avait écrit ses propres scénarios de films comme Shivers, Rabbit, The Brood, Scanners et Videodrome. Pour la distribution, eh bien, on a Jeff Goldblum dans le rôle de Seth Brundle, Goldblum qu'on avait vu dans des films comme Independence Day et Jurassic Park. Gina Davis dans un de ses premiers rôles à l'écran qui faisait le personnage de Veronica, elle qui avait été l'actrice principale dans Thelma and Louise et The Long Kiss Goodnight. Et l'acteur John Goetz que l'on a vu dans des films comme Born on the 4th of July et Blood Simple. Petite anecdote amusante, c'est le réalisateur David Cronenberg qui va interpréter le personnage du gynécologiste dans la séquence de rêve où Veronica donne naissance au bébé de Brundle. Le film commence pendant un party où est-ce que Seth Brundle, un scientifique brillant, mais excentrique, va rencontrer Ronnie, ou Veronica si vous préférez, qui est interprétée par Gina Davis. Il la ramène avec lui à son laboratoire après lui avoir confirmé qu'il avait créé une invention qui allait changer la face du monde comme on la connaît aujourd'hui. Cette invention s'appelle le télépod. C'est une invention qui consiste à transporter quasi instantanément d'une cabine à une autre un objet ou un être vivant en brisant puis en réassemblant sa composition moléculaire. Lorsque Veronica lui annonce qu'elle a l'intention d'écrire un article sur son invention, Brundle panique un petit peu parce qu'il sait très bien que si son invention sort à ce moment-ci, alors qu'il n'a pas encore terminé de la travailler, il risque de perdre le contrôle sur ce dernier et donc il va persuader Veronica de garder son secret en échange des droits exclusifs sur son histoire. Après une série d'expériences qui vont tourner à l'horreur, Seth et Veronica vont entamer une relation. Relation qui se complique par le fait que l'ancien petit ami de Veronica n'est nul autre que son patron, le directeur d'une importante revue scientifique. Lorsque ce dernier va menacer Veronica de mettre à jour l'invention de Seth, Veronica va devoir quitter Seth rapidement et se diriger chez son ancien petit ami pour essayer de trouver une solution pour éviter que le secret ne sorte à grand jour. Croyant que Veronica était repartie dans les bras de son ancien petit ami, Seth va tenter l'expérience suprême et va donc se téléporter lui-même, sans savoir qu'au moment où il embarque à l'intérieur du télépod, une mouche va également s'intégrer. Et donc, lorsqu'il va être téléporté, l'ordinateur, ne sachant pas quoi faire avec la mouche en question, va tout simplement la fusionner avec Seth.
Dès le moment que ce dernier ressort de la machine, il sent qu'il est quelque peu différent. Et là, soudainement, il va sentir que sa capacité physique s'améliore, qu'il semble se sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus agile que ce qu'il était avant, sans savoir qu'à l'intérieur de son corps, eh bien, tranquillement, pas vite, l'ADN de la mouche est en train tout simplement de le transformer en un insecte gigantesque de 6 pieds de haut. C'est au début des années 80 que le coproducteur Kip Oman, qui durant la même année, en 86, va également produire le film The Hitcher, va vouloir faire ses premiers pas dans le domaine cinématographique en faisant un remake d'un film qui s'intitule The Fly, qui avait été fait avec Vincent Price en 1958. Tout de suite, il approche le scénariste Charles Edward Pogue, qui lui va se mettre à lire la petite nouvelle qui a été écrite en 1957 par George Langeline, sur lequel avait été basé le film d'origine. Rapidement, Pogue se rend compte que de faire la téléportation d'un individu et de faire en sorte qu'il se retrouve avec la tête et la main d'une mouche, dans le concept d'aujourd'hui, ne serait pas pris au sérieux. Et donc, il décide lui-même de tout simplement faire une transformation de l'individu, c'est-à-dire que l'ADN de la mouche va tranquillement transformer l'ADN de notre scientifique. Dans la version originale, tout comme dans le film de 1958, Seth et Ronnie sont hommes et femmes, chose qui va être modifiée par l'arrivée du réalisateur David Cronenberg. Mais avant que Cronenberg arrive, Kip Oman va approcher Stuart Kornfeld afin qu'il puisse produire le film en question. Rapidement, Kornfeld va avec Pogue se rendre dans les locaux de la 20th Century Fox et on va présenter le projet qui va être reçu avec beaucoup d'enthousiasme, à un point tel que la 20th Century Fox va donner un montant d'argent pour que Pogue puisse écrire le premier jet du scénario. Cependant, lorsque les exécutifs vont lire le scénario en question, eh bien, ils ne seront pas impressionnés à un point tel qu'ils vont se retirer du projet. Et cependant, Kornfeld va se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il puisse faire, durant de nouvelles négociations, un deal avec la Fox qui dit que s'il est capable de trouver une autre source de financement, que 20th Century Fox accepterait alors de faire la distribution du film. Et ça n'a pas été long, puisque Kornfeld est allé voir à ce moment-là un de ses amis, un homme avec qui il avait déjà travaillé quelques années avant lorsqu'il avait produit ou coproduit le film The Elephant Man avec David Lynch. L'homme en question est le comédien Mel Brooks, qui est connu pour des films comme Blazing Saddles, Young Frankenstein, donc il est connu surtout pour son image de comique et de satire. Brooks avait fait sa carrière notamment avec un film qui s'appelait The Producers, qui avait été très mal reçu par les critiques à l'époque, mais qui fut un succès monstre au niveau du box-office. Donc, Brooks va accepter de donner l'argent pour faire la production du film de la mouche. Cependant, il n'est pas très content du scénario et donc, à ce moment-là, on va simplement tasser Pogue de là et on va engager Wallen Green, un autre scénariste, qui lui va faire une réécriture, mais malheureusement, et Kornfeld et Brooks ne seront pas contents du résultat final et on va se retourner de nouveau vers le scénario de Pogue. Le premier choix au niveau de la réalisation pour les deux hommes, je parle ici bien sûr de Brooks et de Kornfeld, était bien sûr David Cronenberg. Mais malheureusement, Cronenberg dut se désister puisqu'il travaillait à ce moment-là sur Total Recall, l'adaptation que cherchait à produire à ce moment-là Dino De Laurentiis. Et donc, Kornfeld va se retourner vers un jeune réalisateur britannique du nom de Robert Bierman, qui lui va partir de l'Angleterre et se rendre à Los Angeles pour rencontrer et Brooke et Kornfeld. Et on va signer une entente comme quoi que Bierman sera le réalisateur officiel. Mais malheureusement, au tout début de la pré-production, la tragédie va frapper Robert Bierman, dont la fille va mourir alors qu'elle était en vacances en Afrique du Sud. Et donc, Bierman va se retirer du projet quelque temps. Pas dire que Mel Brooks va l'abandonner, puisque Mel Brooks va tenter pendant des mois d'attendre après lui. Et durant une dernière conversation, où est-ce que Bierman lui dit qu'il n'était pas encore capable de pouvoir s'arrêter sur ce projet-là, Brooks, comprenant très bien la situation, va lui dire « Écoute, prends 3 mois et dans 3 mois, on se reparle. » 3 mois plus tard, bien sûr, de nouveau, Mel Brooks va parler à Bierman, mais Bierman va lui dire qu'il est obligé de se retirer du projet et Brooks va comprendre et va tout simplement le libérer de son contrat sans pénalité. C'est à ce moment-là que Kornfeld va retourner voir David Cronenberg, qui lui, à ce moment-là, avait quitté le projet de Total Recall et se retrouvait avec absolument rien entre les mains. Cronenberg va accepter de signer comme réalisateur à deux conditions, d'être capable de retravailler avec son équipe à lui, donc ses propres collaborateurs, et d'être capable de réécrire le scénario au complet. Ce qui est amusant, c'est que Cronenberg va demander 750 000 $, ce à quoi va renégocier Brooke et Kornfeld en lui offrant plus d'un million de dollars pour la réalisation, donc comme quoi qu'on tenait absolument à ce que Cronenberg soit derrière la mise en scène. Chose très importante, Cronenberg va pratiquement réécrire au complet le scénario de Pogue, sauf qu'il va se battre aux côtés de la Writers Guild pour que le nom de Pogue soit placé à côté du sien au niveau de la scénarisation parce que, comme il disait, je n'aurais jamais été capable d'écrire le scénario que j'ai écrit si je n'avais pas eu le scénario de Pogue qui a servi comme solide fondation. Je vous disais il y a quelques instants pourquoi est-ce que Mel Brooks n'est pas identifié comme producteur dans le film. Eh bien, c'est que Mel Brooks était reconnu comme un comique et surtout un satire. Et Mel Brooks avait peur à l'époque que si son nom était associé à La Mouche, qu'on allait associer ce film-là à une comédie qu'à un film d'horreur ou un drame de science-fiction. Avec un scénario écrit, des producteurs, un financement tout prêt, eh bien, à ce moment-là, il faut se tourner vers la distribution. Et Cronenberg va devoir se battre avec la 20th Century Fox pour avoir l'acteur Jeff Goldblum dans le rôle principal. Du côté de Fox, on va accepter, mais ce qui est encore plus amusant, c'est Jeff Goldblum, à ce moment-là, qui va se battre avec lui pour lui faire accepter Gina Davis, qui, à l'époque, était la petite amie de Jeff Goldblum, mais que Jeff Goldblum considérait être parfaite pour le rôle. D'ailleurs, ce qui a convaincu Cronenberg, c'était justement le fait que Jeff Goldblum et Gina Davis étaient déjà un couple, puisque ça allait augmenter l'attrait dramatique d'un couple qui se détériore suite à la transformation de notre personnage principal. Au niveau des effets spéciaux, eh bien, c'est le concepteur d'effets spéciaux Chris Wallace qui s'était occupé des créatures dans le film de Gremlins qui, à ce moment-là, va se faire remettre deux projets sur la table, soit Gremlins 2 et The Fly. Lorsque Wallace présente à son équipe quel projet les gens voudraient travailler, tout le monde voulait travailler sur Gremlins 2 parce qu'on considérait que le produit de The Fly était beaucoup trop gigantesque pour le temps donné pour le faire. Sauf qu'en bout de ligne, on s'est dit, finalement, la complexité de faire les effets spéciaux de The Fly en dedans de 3 mois a tellement intrigué l'équipe qu'on a décidé finalement d'accepter de prendre le produit. Et c'est une bonne chose du côté de Wallace puisqu'il va gagner le prix des meilleurs effets spéciaux aux Oscars de 1987. D'ailleurs, c'est vraiment amusant puisque Jeff Goldblum, vers la fin du tournage, pouvait porter sur le visage plus de 5 livres de prosthétiques durant sa transformation finale en La Mouche. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes considèrent qu'il s'est fait voler aux Oscars le rôle de meilleur acteur parce que même s'il a eu une nomination, c'est pas lui qui a eu le prix. Et beaucoup de gens vont dire que la raison pourquoi qu'on ne lui a pas donné le prix du meilleur acteur à Hollywood cette année-là, c'était tout simplement parce que la vieille clique de gens qui donnaient des prix n'était pas très fort à donner des prix aussi importants pour un film d'horreur ou un film de science-fiction. Petite anecdote au niveau du tournage, le fait de tourner avec des babouins n'a pas été quelque chose de très facile pour le réalisateur Cronenberg. D'ailleurs, il avait très peur de ces babouins parce qu'un babouin, si on n'est pas capable de bien le contrôler et qu'il devient contrôlant, peut transformer un plateau de tournage en un véritable cauchemar. Mais il prétend que les 6 pieds 4 de Jeff Goldblum ont fait en sorte que le babouin en question s'est très rapidement lié d'amitié avec l'acteur puisqu'il se sentait probablement très en sécurité et surtout très intimidé par la carrure de l'acteur. Donc, ça l'a permis d'une certaine facilité au niveau du tournage, ce qui fait que le babouin s'est pris d'amitié très rapidement avec Goldblum et ça l'a évité des problèmes, surtout avec tout ce qui était féminin sur le plateau de tournage. Cronenberg est vraiment surpris que beaucoup de journalistes ont associé The Fly avec la montée du sida dans les années 80. En réalité, Cronenberg voulait toucher beaucoup plus à la maladie qui est le cancer, beaucoup plus que celle du sida. Mais comme on va en parler tout à l'heure, c'est difficile justement de ne pas associer The Fly avec le sida ou n'importe quel autre type de maladie du style qui peut justement transformer un individu par l'intérieur et faire en sorte que cette personne-là se voit changer drastiquement et en être parfaitement consciente. D'ailleurs, c'est un des points forts de The Fly et c'est probablement pourquoi ce film-là va bien vieillir avec le temps. Déjà, de 1986 à aujourd'hui, on va écouter le film puis on ne sentira pas que ce film-là a mal vieilli. Et la raison est que ce soit le sida, que ce soit un virus, que ce soit les expériences sur l'ADN, que ce soit même avec ce qu'on a vécu récemment avec le COVID ou n'importe quelle autre maladie qui pourra survenir dans les 10, 15 ou 20 ou 30 ou 40 prochaines années, The Fly va toujours rester au goût du jour. Pourquoi? Parce qu'on voit un individu qui, après avoir commis un geste imprudent, va se retrouver atteint d'une maladie, c'est-à-dire que sa génétique va se mettre à transformer. Mais ça peut arriver avec n'importe quoi. Ça peut arriver avec un virus, ça peut arriver avec le sida, ça peut arriver avec le cancer, ça peut arriver avec plein de choses. Et cette personne-là va avoir perdu le contrôle, c'est-à-dire une journée, son corps va très bien et le lendemain, suite à cette imprudence, va être atteint d'une maladie qui va le transformer à l'intérieur et à l'extérieur, mais sa conscience est toujours là et il le voit du début jusqu'à la fin. On peut même associer d'une certaine façon The Fly avec l'Alzheimer, où est-ce qu'on peut voir une personne qui, tranquillement parlant, voit sa tête s'en aller, mais elle est consciente du fait que sa tête est en train de s'en aller. Donc, c'est toute l'horreur du film de la mouche. De plus, un autre point qui est extrêmement important, c'est le moment où Véronica apprend qu'elle est enceinte de Seth Brundle. Qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur de son corps? Et encore là, on parle ici d'une personne qui a une confiance extrême à un autre individu qui commet une erreur de jugement. Et cette erreur de jugement-là, même si elle est extrêmement prudente, elle va se retrouver être impliquée dans ça et être une victime de cet incident-là parce que l'autre personne en qui elle avait confiance a commis ce geste-là. Et elle, pensant qu'il était correct, va subir les conséquences de ce geste-là. Et c'est la raison pour laquelle la mouche a autant d'importance et autant d'impact au niveau du cinéma, que ce soit dans les années 80 ou que ce soit encore aujourd'hui. Ce qui est amusant aussi, c'est que c'est une sorte de mise à jour du conte de la Belle et la Bête. C'est amusant de voir à quel point Cronenberg a pris plusieurs choses et s'est amusé. Sa mise en scène est excellente d'ailleurs, et ça, c'est le genre de film. C'est rare que je vais dire qu'un remake peut être meilleur qu'un original, mais dans le cas de La Mouche, la façon que le film The Fly a été réalisé par Cronenberg fait en sorte qu'il déclasse totalement le film original de 1958. Au niveau de la réalisation, comme je disais, bien écoutez, au niveau du film, je pense que ce qui fait sa force, c'est la pyramide parfaite, c'est-à-dire un bon metteur en scène et deux excellents acteurs principaux. Comme je disais tantôt, Goldblum aurait dû gagner un Oscar pour le meilleur acteur dans ce film-là parce qu'il est tout simplement excellent. D'ailleurs, que ce soit Jeff Goldblum ou que ce soit Gina Davis, je pense que ces deux acteurs-là donnent dans ce film-là la prestation de leur carrière. Beaucoup de gens vont considérer The Fly comme un film d'horreur, mais c'est bel et bien un film de science-fiction qui va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'est Frankenstein, c'est-à-dire ce scientifique qui crée une créature qui, elle, échappe à tout contrôle, qu'à un slasher à la Halloween ou à la Vendredi 13. Mais Cronenberg est un gars qui aime jouer avec nos peurs et c'est ce qui peut faire en sorte que beaucoup de gens peuvent considérer The Fly comme étant plus un film d'horreur qu'un drame de science-fiction. Mais la base fondamentale de La Mouche, c'est un drame de science-fiction. Au niveau des effets spéciaux, ils sont totalement A1. Encore aujourd'hui, ils sont encore vraiment impressionnants. Je pense que peut-être juste la séquence finale où est-ce qu'on passe de Brendel à la mouche, qui peut-être est un petit peu trop, mais pour le reste, je pense que le film est excellent. Cependant, ça amène les débuts des points faibles, c'est-à-dire, pour certains, ce film-là, au niveau de la violence, peut les répugner et peut faire en sorte que certains spectateurs qui ne voudront pas écouter le long métrage, faites-moi confiance, si vous êtes capable de passer par-dessus ça, ce film-là vaut vraiment la peine d'être écouté. L'autre chose aussi que je considère être peut-être un point qui est extrêmement faible, qui est peut-être probablement le point le plus faible du film, c'est la facilité qu'a Brendel de programmer son ordinateur et de lui expliquer ce qu'est la chair humaine et la façon facile qu'il a d'arriver à comprendre pourquoi l'ordinateur au niveau du transfert n'est pas capable de transférer un organisme vivant face à un objet qui est inanimé. Face à la musique, c'est le compositeur Howard Shore qui nous avait donné la trilogie des Lord of the Rings et la trilogie du Hobbit, qui nous a également donné beaucoup de trames sonores du film de David Cronenberg, soit Scanners, Videodrome et The Brood. Eh bien, vous pourrez retrouver la trame sonore de Howard Shore sur vinyle, cassette, CD. Tout ça s'est apparu sous l'étiquette Varese Saraband. Et en 2005, eh bien, Varese Saraband a ressorti une nouvelle édition de disques qui met également la trame sonore du compositeur Christopher Young pour le film The Fly 2, qui est la suite de The Fly de 1986. Chose importante aussi, Cronenberg, Mel Brook et Kornfeld avaient donné la mission au chanteur Brian Ferry d'écrire et d'enregistrer une chanson pour le film qui s'intitulait « Help Me ». On avait fait un vidéoclip, mais malheureusement, tout va tomber dans l'oubli parce que Cronenberg, même s'il aimait la chanson, trouvait que ce n'était pas approprié pour le film. Mel Brook et Kornfeld se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à ce que Cronenberg leur montre le générique de la fin, parce que Brooke et Kornfeld s'étaient dit, ben écoute, au moins, on va le mettre pour la fin du générique, et puis ça devrait bien passer à ce moment-là. Mais lorsqu'ils ont vu le générique après avoir écouté le film, ils ont été obligés de dire à David Cronenberg qu'il avait raison. Mais on peut l'entendre quand Seth Brundle se retrouve dans un bar où il va faire un bras de fer avec un homme afin de remporter un pari et de ramener une jeune demoiselle chez lui. Donc, si vous écoutez bien comme il faut dans cette séquence-là en arrière-plan, vous allez entendre la dite chanson. Mais ici, je vais vous faire écouter la musique du générique de fin de film qui a été composée par Howard Shore.
Sorry, sir. This is a private mountain.
But I only wanted it.
This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters.
But it's
a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats.
But I am a patron of this drive-in.
Well, why didn't you say so? Be our guest.
Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow! It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men.
A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sandflies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard.
So if you don't want our company ever anywhere, just like Pick and see what I mean? Bye!
Pick is on sale at the refreshment stand now. And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Écoutez. Vous l'entendez? Ça se rapproche. De plus en plus. Pas peur. Ayez très, très peur. Tu pourrais finir le travail de ton père. T'es aussi brillant que lui, même plus.
Il m'arrive quelque chose de bizarre, mais je ne sais pas ce que c'est.
Je ne vais plus bien.
Je me sens plus fort.
Deux. Tel père, tel fils.
The Fly 2, ou La Mouche numéro 2, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par les studios 20th Century Fox le 10 février 1989. Ce film américain, français et britannique est d'une durée de 105 minutes, faisant de lui le plus long film de toute la saga de La Mouche. Avec un budget de 9 millions de dollars, ce deuxième chapitre ramassera plus de 38 millions de dollars à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on retrouve Chris Wallace, qui nous avait donné les effets spéciaux du premier film, mais qui avait également réalisé un épisode de Tales from the Crypt qui s'intitule Tale Beth, ainsi que le film The Vagrant. Au niveau de la production, on retrouve Stephen Charles Jaffe, qui nous avait donné Near Dark, Strange Days et Ghost, ainsi que Mel Brooks, qui encore une fois n'était pas crédité au poste de producteur, qui nous avait donné les films To Be or Not to Be et The Elephant Man. Au niveau de la scénarisation, on va retrouver quatre noms, soit Mick Garris, le scénariste du film Hocus Pocus et Riding the Bullet, Frank Darabont, le scénariste de The Blob, la version 1988, et de Freddy 3 de Dream Warriors, ainsi que Jim et Ken Wheat, des scénaristes américains qui nous ont donné les scénarios de Nightmare on Elm Street 4 et Pitch Black. Dans la distribution, nous allons retrouver l'acteur Eric Stoltz dans le rôle de Martin, celui qu'on avait vu dans le film Some Kind of Wonderful et la série télé Caprica. On va également retrouver Harley Cross, ce jeune homme de 10 ans qui va interpréter le jeune Martin Brandel. Daphne Zuniga, que l'on avait vu dans Spaceballs, Lee Richardson, Gary Chalk, Anne Mary Lee, Frank Turner et John Getz, qui fait ici son retour dans le rôle de Statis, personnage qu'on avait vu dans le film de 1986, The Fly. 5 ans après les événements du premier film, nous allons assister à l'accouchement de Véronica. Cependant, Véronica va décéder dès la naissance du nouveau-né et Martin va être à ce moment-là pris par la compagnie qui avait embauché Seth Brundle au niveau de son invention pour le téléporteur. Élevé dans un laboratoire, Martin va se mettre à grandir à une vitesse fulgurante et, ayant l'âge de quelques mois, Martin donne déjà l'impression d'être un enfant de 10 ans. Martin est doté d'une intelligence supérieure et va commencer à perfectionner les expériences de son père sur la téléportation lorsqu'il va découvrir les engins de celui-ci. Mais ce n'est pas juste l'intelligence dont a hérité de son père Martin, mais également des gènes mutants qui peu à peu vont le transformer en une créature ignoble et beaucoup plus effrayante que son père. Dès la fin du film The Fly, on demande à David Cronenberg s'il serait intéressé à réaliser la suite. Cependant, Cronenberg avait déjà signé pour d'autres projets et il dut passer outre. C'est alors qu'on va approcher le réalisateur Sam Raimi, qui nous avait donné bien sûr la saga des Evil Dead, qui va se retrouver sur le projet. Avec son frère Ted Raimi, Sam Raimi va écrire un scénario vraiment frappant, mais on va le considérer beaucoup trop farfelu et on va décider de passer outre le projet. C'est alors qu'on va faire la demande au concepteur d'effets spéciaux Chris Wallace, qui avait gagné énormément de prix pour le premier film, et on lui donne à ce moment-là l'opportunité de mettre en scène cette suite. Afin d'accepter ce projet, Chris Wallace va devoir se retirer des effets spéciaux du film Gremlins 2 de New Batch afin de pouvoir se concentrer uniquement sur la réalisation du long-métrage. À l'origine, Wallace voulait tourner à Toronto. Cependant, il découvre que les emplacements ne sont pas assez grands pour être capable de reproduire les plateaux de tournage qu'il a besoin et la grandeur des studios. Et donc, il va décider de se rendre au Bridge Studio à Vancouver pour la réalisation du film. Dans le scénario original, il était révélé que Statis Borans, le personnage qui était interprété par l'acteur John Gertz dans le premier film, avait tout simplement pris le disque qui se trouvait dans l'ordinateur de Seth Brundle, ce qui empêchait la compagnie qui avait embauché Seth Brundle de pouvoir faire fonctionner les téléporteurs et surtout de continuer les expériences à partir de l'endroit où Seth était rendu. Ce qui explique pourquoi, dans le film, nous avons droit à ces téléporteurs non fonctionnels où est-ce que les scientifiques ne sont pas capables de trouver la solution au problème. Rapidement, cependant, on va enlever cette séquence du scénario, ce qui est dommage parce que, d'un côté, ça aurait pu permettre d'expliquer pourquoi, justement, la compagnie qui avait obtenu quand même le téléporteur n'était pas capable de reproduire l'engin en question. Au niveau de la distribution, l'actrice Gina Davis fut approchée à nouveau pour interpréter le personnage de Veronica Carlyle. Cependant, lorsque Gina Davis va voir le scénario et qu'elle ne devait qu'apparaître qu'au tout début du film, soit dans le générique d'introduction et que son personnage allait être tué dès les premiers instants du long-métrage, elle décide de se retirer du rôle et c'est à ce moment-là qu'on va embaucher Saffron Anderson qui, elle, va prendre la place de Davis. Du côté de Martin Brundle, on a écrit ce scénario avec l'idée d'Eric Stoltz dans le rôle principal. Cependant, avant de se rendre à Stoltz, lorsqu'on a commencé à faire la recherche pour la distribution, on a approché l'acteur Vincent D'Onofrio qu'on avait vu dans Men in Black et l'acteur Keanu Reeves qu'on avait vu également dans le film The Matrix pour interpréter le personnage de Martin. Cependant, dans les deux cas, les auditions ont très mal été et tout de suite, on va se retourner en direction d'Eric Stoltz, qui semblait quand même avoir des caractéristiques qui nous faisaient penser énormément à l'acteur Jeff Goldblum. Et c'est ce qui va faire que Stoltz va hériter du rôle. Du côté de Daphne Zuniga, c'est le producteur exécutif Mel Brooks qui va proposer le nom de cette dernière puisqu'il avait travaillé avec elle sur le film Spaceball et qu'il avait été très impressionné par son travail. Jaffe et Wallace avaient des craintes face à Zuniga, mais après les auditions, on a tout simplement décidé de garder l'actrice impressionnée par sa prestation. On va voir également apparaître très rapidement l'acteur Jeff Goldblum dans l'interprétation du film The Fly 2. La raison pour laquelle Jeff Goldblum n'a eu aucun montant d'argent face à ce segment, c'est que la séquence qui a été prise pour The Fly 2 est tout simplement une séquence qui avait été tout simplement délitée du premier film de 1986 et qui a tout simplement été rajoutée et prise pour présenter les segments d'histoire dans le second film, ce qui va permettre à Martin d'en connaître un peu plus, non seulement sur ses origines, mais sur la malédiction et le futur sombre dans lequel il semble se diriger. Un autre avantage aussi de prendre les séquences qui étaient dans le film précédent, c'est que ça évitait de payer non seulement Jeff Goldblum, mais également d'avoir à repayer pour réaliser à nouveau tous les effets de maquillage que Jeff Goldblum devait subir pour reprendre ses segments de texte au moment où il le reprenait, c'est-à-dire au début de sa transformation en mouche. Wallace et la 20th Century Fox décidèrent très rapidement de prendre le propriétaire de la compagnie Bartok, soit la compagnie qui avait embauché Seth Brundle pour le travail de téléporteur, comme antagoniste. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on s'était basé tout simplement sur les films Alien de 1979 et Aliens de 1986, où la compagnie Weyland-Yutani était le grand vilain derrière les deux premiers films. Et donc, de ramener le personnage de Barlock, ça faisait tout simplement faire un clin d'œil à ces deux films cultes qui avaient été très appréciés du public lors de leur sortie. À l'origine, lorsque le film va sortir, il va avoir une cote X qui va lui être donnée pour le MPAA à cause de ses scènes graphiques de violence, principalement celle où un agent de sécurité voit sa tête écrasée par un ascenseur. Mais le réalisateur Chris Wallace va décider d'aller rencontrer les membres de la MPAA et va les convaincre de lui donner un R rating, donc une cote 18 ans, sans qu'il n'y ait aucun montage ou que le film ne soit retravaillé. L'effet visuel du générique d'introduction de The Fly 2 est en réalité une séquence qui a été prise du premier film, mais dont on ne s'est pas servi à l'origine. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui vont être travaillées de la sorte, c'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup de choses du premier film qui n'ont pas été utilisées dans le long-métrage original afin de pouvoir sauver beaucoup d'argent sur la production du deuxième. Cependant, comme on avait détruit les props du téléporteur dans le film original, il a fallu les rebâtir au complet. Il est à noter que la créature que va devenir Bartok a été interprétée par le frère du réalisateur, Chris Wallace, c'est-à-dire Mark Wallace. Malgré le fait que David Cronenberg va détester ce film, et en plus, malgré le fait que le film va quand même être mal reçu par la critique en général, celui-ci va gagner quand même les prix du Saturn Award pour le meilleur film d'horreur, pour les meilleurs maquillages et également pour la meilleure musique en 1991. Malgré le fait que The Fly 3 n'a jamais été réalisé, il y a quand même une suite qui a été faite en comic book. The Fly Outbreak a été écrit par Brendan Seifert et a été publié en 2015. The Fly Outbreak va prendre place quelques années après The Fly 2 et va suivre Martin Brundle qui essaie de guérir Anton Bartlock de sa mutation dont il est victime à la fin du film. Malgré le fait que The Fly 2 est très loin d'être dans la même ligue que son prédécesseur, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes dans le film The Fly 2. Notamment le jeune Harley Cross, qui est probablement la plus belle chose au niveau de la distribution de The Fly 2. Il interprète un jeune Martin Brundle tout à fait exemplaire et disons qu'il n'y a pas grand-chose à dire contre sa prestation. Du côté d'Eric Stoltz, même chose, c'est un acteur qui était bien choisi, qui a un look qui ressemble énormément à Jeff Goldblum. La seule problématique, et je pense que c'est au niveau de la réalisation, il aurait fallu que quelqu'un dise à Stoltz de ne pas commencer à imiter les mimiques physiques de son père ou de Jeff Goldblum puisqu'il ne l'a jamais rencontré de sa vie. Donc, c'est impossible pour lui de pouvoir prendre les mêmes mimiques que ce dernier. Mais son interprétation est quand même à point et je trouve qu'Eric Stoltz s'en sort très bien. Bien sûr, The Fly 2 est avant tout un film d'effets spéciaux. Oubliez la recherche de la cruauté humaine du premier film. Là-dedans, on nous montre vraiment des séquences choquantes. Le but, c'est de montrer le plus d'effets spéciaux et je dirais que la séquence la plus impressionnante est celle où Martin se retrouve dans un cocon. Le film va à une vitesse effrénée. On ne voit pas le temps passer. Ça également, c'est un point positif. Ça évite de s'attarder trop aux points négatifs du film et ça permet justement à l'auditoire de pouvoir apprécier quand même un spectacle qui n'hésite pas à sombrer dans l'hémoglobine à la fin. J'irais même à dire que, malgré les défauts au niveau de la mise en scène, la réalisation de Chris Wallace et l'ambiance qu'il a mis dans ce film est vraiment très bien soignée. Et c'est là qu'arrivent les points faibles, puisqu'on est vraiment très loin du classique de David Cronenberg. Le scénario est des plus conventionnels et manque souvent de bonnes idées et de subtilité. Les dialogues vont manquer de profondeur. Enfin, finalement, tout est superficiel dans le film de The Fly, à un point tel qu'on ne s'attache pas vraiment au personnage. Ce qui est triste, c'est qu'on aurait pu tout simplement prendre le personnage de Martin et de tout simplement s'attarder à l'évolution de ce dernier et les points positifs que l'ADN de la mouche aurait pu lui apporter et non pas tout simplement d'aller se concentrer sur le fait qu'il va se transformer en une créature hideuse et monstrueuse. Mais bon, ça s'appelle La Mouche 2 et on ne voulait probablement pas répéter The Curse of the Fly en 1965 où est-ce que là, on parlait d'un scientifique qui faisait les expériences de son père, mais dans lequel on n'a vu aucunement une mouche apparaître. C'était simplement pour dire que c'était une suite des aventures de la famille qui avait fait les expériences qui ont transformé et son grand-père et son père en mouches. Dans le cas ici, bien, au niveau de l'histoire, le fait qu'on garde Martin Brando veut tout simplement nous amener vers cette batch d'effets spéciaux où tout ce qu'on va voir, c'est tout simplement la transformation de Martin en mouche. L'autre chose aussi, il y a des choses qui sont un petit peu loufoques et ridicules dans le film. Si on fait une expérience sur un animal et que ce dernier subit une mutation qui lui enlève sa joie de vivre, pourquoi le garder en vie? Et ça, c'est des choses qu'on ne va jamais répondre. Pourquoi qu'on a voulu garder, mettons, le chien favori de Martin Brando qui va être transformé en une créature hideuse? Pourquoi est-ce qu'on le garde vivant? Est-ce que c'est parce qu'on fait des expériences dessus pour comprendre comment son ADN a été transformé? Est-ce que c'est pour voir combien de temps qu'il va vivre? Il n'y a rien qui nous expliquait là-dessus. Et je trouve ça dommage parce qu'encore là, on manque l'aspect scientifique puis on se concentre sur l'aspect morbide et l'aspect des effets spéciaux et de la répugnance de la scène. Au niveau de la distribution, je dirais qu'à part les défauts de Eric Stoltz qui essaie trop d'imiter Jeff Goldblum, il y a peut-être le personnage également de Daphne Zuniga qui est la plus grande faiblesse du film. Pas parce que l'actrice est mauvaise, mais on sent d'abord, un, que l'actrice est laissée à elle-même, puis qu'elle a un personnage qui n'a aucun développement et qui sert juste à faire avancer l'histoire, mais par moments, on regarde son rôle à Daphne Zuniga et elle est aussi pathétique que le personnage qu'elle interprète. Les personnages secondaires sont tous antipathiques dans le but, finalement, à la fin, d'être de la pâtée pour chien pour la créature qui va s'amuser, bien sûr, à les éliminer les uns après les autres à notre grand plaisir. Mais ça enlève un intérêt, c'est-à-dire que qu'est-ce qui serait passé si, mettons, ces personnages-là n'avaient pas été antipathiques, que ça aurait été des personnages qui auraient été proches de Martin, mais qu'à cause de sa transformation, Martin devient un insecte, une bête, et qu'il ne peut plus contrôler ses émotions, et donc par le fait même qu'il commence à éliminer ces gens-là, et Dewey, lorsqu'il va redevenir humain, va devoir revivre avec ça. Ça, c'est encore quelque chose avec lequel on aurait pu travailler, mais que malheureusement, on n'a pas fait, et je trouve qu'on a manqué le bateau à ce niveau-là. Bien sûr, pour faire un film de série B, où la violence est principalement ce qui intéresse le réalisateur, ben de mettre les personnages antipathiques, c'est plus facile de se débarrasser d'eux autres par la suite et les gens sont vraiment contents de voir la situation arriver comme ça et de voir les effets spéciaux arriver les uns après les autres. Finalement, Chris Wallace conclut son long métrage par un bien étrange happy ending, une fin qui est beaucoup trop facile, qui est vraiment ridicule, qui n'a aucun bon sens, mais bon, c'est la mouche. On voulait finir ça parce qu'on ne s'attendait pas qu'il y aurait un troisième volet. Et c'est une belle fin, je pense, pour cette saga de The Fly qui met un point final à la série jusqu'à ce qu'on décide, à un certain moment donné, de ramener cette franchise à la vie et de nous recréer la créature de la mouche d'une nouvelle façon. Du côté de la trame sonore du film, c'est Christopher Young qui nous a donné la musique des films Hellraiser 1 et 2, Urban Legends et The Grudge 1 et 2, qui nous donne ici une bonne prestation musicale, quelque chose que je vous fais écouter à l'instant.
Au niveau de la cote artistique de Mediafilm, eh bien pour The Fly, le Mediafilm donne une cote de 4. Moi, j'y vais avec une cote de 3 parce que je considère que c'est un film, comme je disais plus tôt, qui va bien vieillir avec le temps. Même je m'attends qu'un jour, on voit ce film-là s'en aller peut-être vers un 2. Je pense pas que ça va atteindre la cote de 1 un jour, mais je pense qu'il mérite au moins un 3. Au niveau de l'âge, eh bien la régie du cinéma lui donne une cote de 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un 14 ans solide à cause, bien sûr, de la violence qui est graphique. Comme je disais, ça peut répugner certains spectateurs, surtout ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de spectacle très graphique, mais ça demeure quand même que c'est un film qui est à écouter. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, eh bien, vous pouvez trouver The Fly en DVD et en Blu-ray disc dans des éditions bilingues, donc vous avez les deux langues. Dans chaque format, vous avez le film dans plusieurs éditions, que ce soit en édition simple ou en édition double. Mais je pense que ce qui est important, surtout pour les amateurs de The Fly, parce que vous avez en DVD le coffret qui s'appelle The Fly Collection, qui inclut les trois films de la série originale, soit 58, 59 et 65. Mais c'est surtout l'édition Blu-ray qui serait importante, dans laquelle vous avez les 5 films de la saga, soit les 3 premiers et le remake de David Cronenberg, suivi de sa suite qui a été faite, The Fly 2, 3 ans plus tard. Le problème avec l'édition Blu-ray de The Fly Connection, c'est que les films sont malheureusement uniquement en version anglaise. Au niveau de la cote artistique de Mediafilm, The Fly 2 est coté 5, soit moyen. C'est la même cote que je lui donne également. Je trouve qu'au niveau du scénario, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Au niveau de l'âge, le film est coté 18 ans adulte pour violence graphique. Moi, je suis un petit peu ambidextre entre le 14 ans et le 18 ans. Certes, la fin du film est très graphique, mais tout le reste du film est facilement regardable. Donc, je vous dirais, peut-être le 16 ans serait peut-être probablement la meilleure cote qui pourrait lui être donnée. Au niveau de la disponibilité de la musique de film, en vinyle, Vanares Sarabent a sorti la trame sonore de The Fly 2 et il va également en CD faire la même chose en 2007. Cette fois-ci, vous aurez une édition spéciale 2 disques. Sur un disque, vous aurez la trame sonore du film original The Fly et sur le second disque, vous aurez la trame sonore de The Fly 2. Donc, vous pouvez l'avoir donc en vinyle et en CD. Du côté du DVD et du Blu-ray, eh bien, vous avez le Collector Edition en DVD, qui est une édition un disque qui contient la version française et la version anglaise, et en Blu-ray dans les deux langues, français et anglais. C'est encore quelque chose que vous trouvez sans difficulté sur le marché. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.